Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Lucille Coda, donc bonjour.
Bonjour.
T'es réalisatrice du film documentaire Qu'est-ce qu'on va penser de nous qui est projeté donc ce jeudi 12 décembre au cinéma Le 102 dans le cadre du festival du cinéma excentrique. Mais tout d'abord, tu peux commencer un petit peu par te présenter et nous dire un petit peu de quoi ton film parle.
C'est intimement lié justement à ma présentation avec le film, parce que c'est un film à la première personne et un film autobiographique. Je suis réalisatrice de documentaire et Qu'est-ce qu'on va penser de nous est mon premier film. Et en fait, il raconte mon parcours par rapport au fait que mon père était balayeur. Et en fait, j'ai commencé à le filmer quand il allait partir à la retraite. Et le film raconte mon parcours par rapport au fait que j'avais honte qu'il était balayeur et que je voulais absolument réussir ma vie, entre guillemets. Et j'avais envie d'accéder à une sorte d'ascension sociale, entre guillemets, aussi. Et voilà. Et en fait, le film est une sorte de mise en parallèle en fait, de ce parcours avec mes parents dans leur vie quotidienne et ce cinéma direct en fait, questionne... un peu ma parole, quoi.
Ouais, et comment ça t'est venu l'idée de faire ce film ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou...
Il y a eu plusieurs déclics. C'était lié à des circonstances, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans le documentaire. Et même si j'étais cinéphile, je ne connaissais pas le documentaire. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, quoi, et avec des gens qui m'ont... des amis qui m'ont montré comment marchait une caméra, qui m'ont expliqué le montage, qui m'ont expliqué comment produisait un film et qui m'ont aussi beaucoup aidé dans l'écriture du film. Et ce projet de film, il est vraiment né d'un désir de représentation parce que, pour faire simple, j'avais jamais vu de film où le personnage principal était balayeur, par exemple. Et un peu un désir de questionner la méritocratie. Parce que j'ai oublié de dire que lié à ma situation de désir d'ascension sociale, j'ai fait école de commerce et j'ai vécu une grande désillusion par rapport à ça. Et c'était ça que j'avais envie de questionner. J'étais vraiment très en colère en fait quand je suis sortie d'école de commerce. Du coup, ça m'a donné envie de faire ce film. Et aussi, il y a eu d'autres éléments déclencheurs, comme la lecture par exemple de La Place d'Annie Ernaux, qui m'avait vraiment bouleversée et parce que j'avais vraiment vu mon père et je me suis dit que je pouvais être légitime de raconter mon histoire.
Oui, on parlera justement après de tes éventuelles inspirations, mais oui, c'est ça, une volonté de dénoncer un peu ce système élitiste, parce que si je ne me trompe pas, tu as aussi fait une classe prépa, donc qui est quand même... c'est la suite logique après une classe prépa de faire des grandes écoles et tout ça. Et donc, ce qui m'a vraiment interpellée dans ton film, c'est que tout le monde est naturel. Et donc, je voulais te demander comment est-ce que tu as réussi à ce que toutes les personnes, tes parents et même les autres personnes qui interviennent, soient autant elles-mêmes et qu'elles ne soient pas un peu dérangées par la présence de la caméra.
Mais je pense que mes parents m'ont vraiment fait confiance. Et peut-être qu'au début, vu que je leur avais dit que je les filmais au travail, ils ne se rendaient pas forcément compte que aussi ce que je voulais filmer, c'était la parole et ce qu'ils avaient à dire. Donc au début, je pense qu'ils étaient naturels parce qu'ils voyaient l'intérêt dans les scènes, ils voyaient un certain intérêt dans les scènes et moi, je voyais un autre, même si pour moi, c'était extrêmement important de filmer aussi le travail. Et du coup, c'était assez simple. Et en fait, mon père il était hyper naturel, vraiment pas de souci pour le filmer. Il adorait même. Même parfois, il me donnait des conseils de mise en scène et tout.
Et quand tu étais en train de les filmer, il savait pas que le projet derrière.
Ouais, je leur avais vraiment dit que c'était un projet sur le travail. Et vu que j'avais commencé à filmer quand il partait à la retraite. Et à ma mère, donc je lui avais dit ça aussi. Ensuite, mais ça n'empêche que j'ai quand même filmé des conversations qu'on a eues avec, sur mon parcours professionnel et sur la classe sociale, quoi. Et après, un moment dans le film, et ça me semblait hyper important pendant le tournage de leur dire clairement que c'était, qu'ils étaient les personnages principaux et que le film, on allait le faire ensemble, quoi. Parce que pour moi, c'était un questionnement éthique de le faire, de le dire, quoi. Et donc après, il y a ce moment dans le film où je leur annonce que j'arrête le marketing pour faire un film et qu'ils seront dedans. Et ça, c'était... je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir.
Ouais, bah c'est un film en tout cas qui est très touchant et très personnel. Et donc, tu as parlé avant d'Annie Ernaux, qui t'a inspiré avec La Place. Est-ce que tu as eu d'autres inspirations?
Ben ouais, je peux revenir un peu sur La Place. Et en fait, ce qui m'avait vraiment touchée dans ce livre, c'était qu'elle parlait d'une distance qui s'était créée entre elle et son père, qui était épicier et ancien ouvrier, et que son père, et qu'elle avait trouvé en fait dans les poches de son père à sa mort son certificat d'études qui indiquait qu'elle était devenue professeure. Et en fait, ça m'avait extrêmement touchée parce que je me suis dit, ça pourrait tellement m'arriver en fait, parce que mon père était tellement fier que je fasse des études prestigieuses. Et donc forcément, tous les livres d'Annie Ernaux, quand elle parle de sa famille, m'ont beaucoup inspirée, et j'ai été aussi inspirée par la sociologie. Et aussi par une filmographie de films documentaires à la première personne. Donc au début, je suis un peu partie sans beaucoup de références, mais en fait, j'en ai glané de plus en plus au fur et à mesure des années de création du film. Et ça a fait entrer quand même le film dans un certain corpus, avec quand même des codes du film à la première personne.
Ouais, donc c'est en se renseignant sur le sujet finalement que t'as trouvé aussi par la suite de l'inspiration et tu t'es dit « Ah bah, je vais l'orienter comme ça. Enfin, » ouais. Et ben, en parlant de ton film, on va écouter tout de suite un petit extrait.
J'obtiens le bac avec mention très bien. Ma route est toute tracée. Classe préparatoire, école de commerce, CDI. La philosophie et le cinéma, ça sert à rien. Pour moi, les études, c'est fait pour trouver un travail. Je veux devenir riche et parcourir le monde. Je me suis endettée et j'ai parcouru le monde.
T'arrêtes, Lucille, là, puis tu viens nous aider deux secondes, là, pour m'en finir ceux-là, là.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et je suis toujours avec Lucille Coda, la réalisatrice du film documentaire « Qu'est-ce qu'on va penser de nous ?». Et donc, on vient d'écouter ton extrait qui montre ce phénomène, lui, de transfuge social. Enfin, c'est comme ça que c'est dit sociologiquement. Et donc, je voulais te demander, toi, ce concept de transfuge social, donc, qu'est-ce qui t'évoquait avant et qu'est-ce qui t'évoque maintenant? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Alors, c'est une question pour moi qui est assez complexe, parce qu'à la fois je me reconnais dans le terme transfuge de classe, parce que j'ai fait des études secondaires alors que mes parents n'en ont pas fait. Clairement, j'ai accédé à un certain capital culturel qui dans la société est plus valorisé que celui de mes parents, mais à la fois c'est quelque chose qui je pense ne prend pas forcément en compte toutes les oppressions Et une étiquette qui est un peu difficile parfois pour moi à cerner, parce que c'est notamment un peu récupéré, même parfois par la bourgeoisie, quoi. Après, évidemment, dans un terme sociologique, ça me parle, et les écrits sociologiques comme Didier Ribon, Rosemary Lagrave, ont été des ouvrages qui m'ont beaucoup aidée. J'aime aussi beaucoup le terme transclasse de Chantal Jacquet, la philosophe, parce que je trouve que il y a quelque chose de moins, de plus fluide, en quelque sorte, et que les changements de classe sociale, c'est toujours... En fait, je trouve qu'ils sont dans tous les rapports, on est toujours le bourgeois de quelqu'un d'autre, et ça peut changer aussi, pas du jour au lendemain, mais ça peut changer en fonction de qui on traîne, quoi. Et voilà, et je trouve que c'est un terme complexe qui a été beaucoup récupéré, et voilà.
Et je pense que, enfin, aussi, ce qu'on voit dans ton film, c'est que t'en as rêvé, enfin pas rêvé, mais tu l'as peut-être idéalisé pendant une partie de ton enfance, parce qu'on voit le sentiment de honte de parler du métier de ton père ou de ta mère, mais ensuite t'as vu finalement aussi la réalité, et c'est ça qui t'a permis de réaliser que voilà, c'était pas forcément aussi bien que ce que tu l'imaginais. Et donc, dans ton film, tu mets ça en lien avec le milieu rural aussi. Comment est-ce que ce transfuge social, il est vécu dans le milieu rural, et enfin, quelles en sont parfois les conséquences ?
Bah, je pense que la conséquence principale, c'est le départ. C'est que c'est difficile d'envisager une ascension sociale, entre guillemets, sans le départ vers la ville. Et je pense qu'aussi, en tant que personne queer, on est vraiment poussé à ça, parce que ben, y a forcément un réseau plus important en ville. Et pour moi, ça a toujours été un peu un rêve de vivre en ville. Et c'est aussi pour ça que j'adore vivre à Paris, malgré toutes les contraintes qu'il peut y avoir économiques. Mais le film, il m'a vraiment fait avoir un autre discours aussi sur la ruralité. Et rien qu'en fait de filmer le travail de mes parents et de réaliser tout ce qu'ils font. J'ai réalisé que c'était un savoir incroyable, en fait, que je n'avais pas et que je n'avais pas acquis. Et aussi, faire le film, ça m'a permis aussi de revoir le paysage de ma jeunesse, en fait, de mon enfance. Et je l'ai vu complètement différent derrière une... Je l'ai vu complètement différemment depuis... Enfin, derrière la caméra, quoi. Et j'ai trouvé vraiment aussi une beauté à ça, une beauté à cette vie que je reconnaissais pas forcément quand j'étais plus jeune. Et par ailleurs, avec la production du film, j'ai aussi fait des résidences d'écriture, suivi des formations, notamment en Bretagne. Et j'ai réalisé aussi qu'il y avait tout un réseau rural qui était différent aussi de d'où j'avais grandi, avec plein d'initiatives politiques, militantes, culturel, et ça m'a appris beaucoup.
Ouais, donc ça t'a permis de voir ton chez-toi différemment, mais aussi le milieu rural en général. Et tu as parlé de tes parents, qui sont enfin un véritable témoignage d'humilité dans ce film. Qu'est-ce que tu dirais qu'ils t'ont apporté sur ta vision un petit peu du monde professionnel et tout ça ?
Le film, c'est aussi une revalorisation de leur métier, parce que quand j'ai fini l'école de commerce et j'ai commencé à travailler dans le marketing, je voyais aucun sens au métier que je faisais, aucune utilité en fait concrète à part vendre et à part créer des choses qui n'étaient pas nécessaires, quoi. Et quand j'ai rencontré revalorisé en fait le métier de mes parents, c'était pour moi hyper important d'en parler et de trouver même de la fierté là-dedans. Que autant la voirie que ma mère, elle travaillait dans le médical aussi, elle était secrétaire dans le médical. Et c'était pour moi important de défendre aussi une certaine forme de service public et de ces métiers. En plus, c'était assez intéressant parce que j'ai fait le film pendant le Covid et tout. Et c'était quand même un sujet qui est devenu sur... qui a été beaucoup discuté pendant le Covid. Bon, après, qui a été complètement oublié. Mais pendant le moment où je faisais le film, ça a été important. Aussi, le film, il a été fait... Enfin, je l'ai commencé à un moment où c'était après l'élection de Macron, où il parlait beaucoup de la Startup Nation, tout ça. Et moi, je trouvais ça tellement bullshit, quoi, que ça me rendait un peu folle. Enfin, toute l'élection de Macron m'a un peu rendue folle. et ensuite... Ensuite, il y avait toutes les discussions qu'il y a eu sur le mépris social avec les Gilets jaunes, qui ont beaucoup porté dans l'écriture du film, même si le film n'a pas de rapport direct avec les Gilets jaunes, mais ça me rendait folle qu'au travail, tout le monde en parlait, comme si c'était quelque chose de complètement lointain, abstrait, alors que même si mes parents ne sont pas Gilets jaunes, enfin... En fait, quand je voyais les Gilets jaunes, je voyais certaines personnes du milieu d'où je venais, et ça me touchait, même si je me sentais aussi à la fois loin de ces personnes-là. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est de créer des ponts, même si, certes, on évolue dans des milieux différents, mais je pense que c'est extrêmement important de créer des ponts, surtout en ce moment, vu le contexte politique.
Oui, ben, en tout cas, ce sentiment général, c'est quelque chose qui transparaît très bien dans ton film. Enfin, quand tu me dis, je vois les moments qui correspondent à chaque... Enfin, la Startup Nation, c'est dès le départ, début du film, sans spoiler, qu'on voit l'idée d'où tu veux en venir. Et dans ce film, il y a ta maman, à un moment, qui passe une musique qu'elle aime beaucoup. Donc, on va lui faire un petit clin d'œil en écoutant cette musique, Les Oubliés, de Gauvin Cerce.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Vous êtes toujours sur Radio Campus et vous venez d'écouter la musique Les Oubliés de Gauvin Cerce, donc qui témoigne de la France rurale et qui montre que c'est la France oubliée. Et donc, ces territoires ruraux, ils sont souvent marginalisés ou sous-estimés. Et c'est ce que tu montres aussi dans ton film. Et donc, pour toi, Lucille, est-ce que tu peux nous dire ce que cette chanson, elle t'évoque et pourquoi tu t'as décidé de mettre ce moment dans le film ?
Cette chanson, elle passait beaucoup à la radio quand j'ai commencé le film. Et je me rappelle que ma mère, elle écoutait, on était en voiture, et elle m'avait dit qu'elle aimait cette chanson. Et ça m'avait interpellée parce que, évidemment, les thèmes, ça rejoignait les thèmes du film, alors que ma mère ne le savait pas encore. Mais voilà, donc ça m'avait interpellée. Et ma mère, elle me fait tout le temps écouter des chansons parce qu'elle adore la musique qui passe à la radio. Elle est fan d'énergie et tout. Donc elle connaît vraiment toutes les sorties et elle me fait découvrir plein de choses. Et pour cette scène, je lui avais dit « Ah, tu peux me refaire écouter la chanson qu'on avait entendue dans la voiture ?» Et donc là, elle a mis cette chanson. Et en fait, ce qui m'a ému énormément dans cette scène, c'est son visage et la façon dont elle réagit à la chanson. Enfin, elle est vraiment à fond dedans. Et aussi le moment où elle dit « C'est beau, ça !» Et pour moi, c'est vraiment... Enfin, on est vraiment de l'ordre de la sociologie et de Bourdieu, quoi. Parce que moi, alors que les thèmes de cette chanson me parlent, je vais pas forcément trouver que c'est beau. Je trouve que c'est un peu trop, lyrique, tout ça. Et à la fois, le fait qu'elle trouve ça beau, je trouve ça beau. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Et dans le montage du film, on a un peu hésité à la monter. Premièrement, parce que les droits musicaux, c'est cher. Et deuxièmement, parce que... je trouvais que les thèmes évoqués dans la chanson, c'était un peu trop explicatif par rapport au film et que je préférais que le spectateur, la spectatrice comprenne par lui-même. Mais à la fois, c'était tellement beau la réaction de ma mère que je trouvais que c'était plus important. Et à la fois, je sais pas, on parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, c'était aussi une chanson qui a été beaucoup écoutée pendant les Gilets jaunes. Et je trouve ça important aussi.
Ouais, c'est une chanson, oui, en tout cas, on sent dans le film à laquelle ta maman se rattache complètement et comprend les valeurs qui en ressortent. Et donc, ton film, il m'a fait penser à un film qui va sortir là, très bientôt au cinéma, s'il n'est pas déjà sorti, je ne sais plus, dans les prochains jours. C'est 20 dieux, je ne sais pas si tu en as entendu parler, de Louise Courvoisier. Donc... c'est un peu le même type, enfin c'est plus scénarisé que toi, mais elle a pris des personnes du Jura pour parler d'agriculture et mettre à l'honneur la France rurale. Et donc elle a fait le choix de ne pas prendre des acteurs professionnels et de prendre des personnes de l'endroit d'où elle a grandi. Et donc elle souhaite, de ce qu'elle a dit, elle souhaite moderniser l'image archaïque de la vie à la campagne. Donc toi, je voulais te demander quelle vision tu voulais donner de la campagne à travers ce film.
C'est une très bonne question. J'ai pas encore vu 20 dieux. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le voir pendant les vacances de fin d'année avec mes parents, pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais j'ai très hâte de le voir. D'ailleurs, on a été dans le même lycée avec Louise, même si je ne la connais pas. Et à Besançon. Et j'ai vraiment hâte de voir ce film et je me reconnais dans cette démarche-là, comme tu l'as exprimé. Alors, l'image que je voudrais donner de la ruralité, c'est vrai que moi aussi j'aimerais m'éloigner des clichés. Après, je sais pas le fait que je vis à Paris depuis 10 ans, est-ce que ça entache pas, est-ce que je suis pas moi aussi, je deviens pas aussi pleine de clichés, je sais pas. Et c'est pour ça que c'est un travail qui, pour moi, a être à faire sur le long terme et que je veux continuer à faire. Et justement, en fait, mon prochain projet, ça portera sur un groupe de filles dans le Jura, de jeunes femmes. Et je pars en quelque sorte un peu dans une sorte d'inconnu, parce que c'est quand même un monde que j'ai quitté et qui me tient à cœur de représenter, mais j'ai pas envie de le faire avec des clichés. Enfin, justement, je trouve qu'il y a trop cette idée d'ennui, de passivité, de subir, de misérabilisme un peu. Alors que moi, je voudrais plutôt montrer une vision un peu des femmes actives, des femmes comme... Il y a des sociologues qui ont écrit un livre qui s'appelle « Les femmes qui font la campagne ». Et je trouve ça très intéressant, cette expression et cette idée d'un truc plus actif. Et à la fois, ma vision de la campagne, c'est aussi un milieu qui est difficile pour les femmes, parfois. Enfin, dans tous les milieux, mais quand même, où les choses sont très genrées. Et ça n'a pas été forcément facile pour moi. Ou une absence de... Pas une absence, parce que bien sûr que les personnes queer existent, mais c'est plus difficile quand même. Enfin, plus difficile parce qu'on est moins. Et aussi, j'ai quand même vécu dans un milieu raciste et xénophobe. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, ne s'arrange pas. Et quelque chose qu'il faut aussi questionner. Bien sûr, je ne vais pas du tout réduire ça à la campagne. C'est dans tous les milieux que s'infiltre l'extrême droite. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut affronter, je pense.
Ouais. Et donc, en parlant de ça, ça me fait penser au fossé qu'il peut y avoir souvent entre ville et campagne. Enfin, ouais. Et donc, les relations entre ces deux territoires. Et tu penses que c'est amené à évoluer comment, ces relations que la ville et la campagne, elles entretiennent ensemble? Est-ce que tu penses que ça va s'arranger, entre guillemets, ou plutôt prendre encore plus de distance? Bon, c'est une question difficile, donc si tu n'arrives pas à y répondre, il n'y a pas de problème.
En fait, la question, et je ne sais même pas si elle existe vraiment, cette rupture, à part elle est idéologique, certes, mais je ne sais pas, quand on est vers... dans la campagne, chez mes parents, vers Besançon, tout le monde connaît des gens qui sont allés vivre à Paris, travailler là-bas, après ils reviennent. En fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de transmission que ça, en fait. Et il y a vraiment un truc de les sachants, les intellectuels, les gens qui tiennent les médias, etc. Mais à la fois... Je pense que c'est plus complexe, que c'est vraiment une bataille idéologique et qu'il faut qu'on l'amène ensemble, en fait. Autant les gens militants des villes et les gens militants des campagnes pour faire changer les choses. Mais bien sûr, il y a une certaine hégémonie de la ville, etc. Mais en fait, la société a changé partout. Et en fait, si on parle tout le temps de fracture, ça empire la situation, quoi.
Oui, c'est peut-être juste toute une construction sociale, finalement, et pas... Enfin,
ouais, par exemple, je vois la réaction de mes parents, suite, parce que maintenant, ils accompagnent le film et tout, et c'est assez beau, et en fait, c'est même très très beau, et je trouve ça fort, parce qu'en fait, mes parents, ils se retrouvent dans des milieux qui n'étaient pas leur milieu d'habitude. Ils rencontrent plein de gens différents et ça passe, quoi. Enfin, c'est la discussion se fait et voilà, donc ça me donne de l'espoir aussi.
Ouais, et donc est-ce que ce film il t'a aussi peut-être un peu donné envie de renouer avec ton territoire, parce que ça a forcément changé ta vision de ton village où t'as grandi? Est-ce que ça t'a donné aussi envie de renouer un peu avec, et ça t'a, enfin oui, de renouer avec ton territoire?
Oui totalement. C'est pour ça que j'ai envie de faire un deuxième projet dans ce territoire, enfin un peu à côté. Ensuite, je pense que je suis vraiment... Enfin, je ne sais même pas s'il y a besoin vraiment de renouer, parce qu'en fait, j'y vais régulièrement et c'est une partie de ma vie. Ce n'est pas la partie principale, ce n'est pas la partie où je passe le plus de mon temps, mais c'est une partie qui est importante pour moi. C'est pour ça qu'à un moment dans le film, je dis je ne sais pas si je pourrais vendre la maison de mes parents, parce que ça voudrait dire pour moi de m'éloigner de cet endroit-là. et aussi m'éloigner d'une certaine réalité.
Ouais, donc toute une attache sentimentale. Et donc tu parles de ce nouveau projet là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi il va parler, enfin si tu veux.
Ouh là, alors là j'en ai déjà dit pas mal, je peux pas en dire beaucoup plus, mais non mais voilà, ça se passe, enfin j'aimerais bien faire un nouveau film documentaire et qui parle de la place des femmes à la campagne, enfin en milieu rural, et parce que je trouve qu'on est un peu dans l'imaginaire collectif toujours cette image des classes populaires rurales qui passent plutôt par l'agriculture, par les hommes, alors qu'il y a en fait les milieux populaires à la campagne, c'est aussi plein de femmes qui travaillent dans le care, qu'elles soient aides-soignantes ou qu'elles soient assistantes maternelles, et je trouve que c'est aussi très important de parler de ça. Et j'aimerais aussi axer le film sur l'amitié féminine. Voilà.
Okay. Et donc, tu penses le sortir quand, à peu près, ce film ?
Alors, dans longtemps, parce que c'est long de faire un film documentaire. Parce qu'il faut entretenir la relation, il faut du temps de tournage, il faut trouver l'argent. Et ça met, en général, 3, 5, 10 ans. Parfois plus.
Et t'avais mis combien de temps à le faire, ton premier documentaire ?
J'ai mis 5 ans en tout, ah, dont ouais. 3 ans de tournage.
Ouais, donc ça demande beaucoup de temps, effectivement. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, tes documentaires ? Est-ce qu'il y a quelque part, ou est-ce que c'est seulement dans les festivals qui sont projetés, ou est-ce qu'il y a encore il y a quelque chose en ligne aussi ? Je sais pas, des plateformes.
Alors là, actuellement, qu'est-ce qu'on va penser de nous ? Et sur Tank, la plateforme documentaire, pendant encore 30 jours. Et sinon, vous pouvez le trouver en VOD et en DVD sur le site de la boîte de production Mille et Une Films.
Ok, parfait. Bon bah, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose, Lucille, ou c'est bon ?
Non, merci beaucoup.
Ok, bah merci en tout cas de nous avoir accordé ton temps. Et merci à Noé aujourd'hui qui était à la technique. Et pour finir, je vous laisse sur un extrait du documentaire d'Edouard Louis, ou La Transformation, donc... Le documentaire s'appelle Édouard Louis ou la transformation, qui montre aussi cette volonté, tout comme tu l'as montré toi, Lucille, qu'il avait de se détacher de son milieu social.
C'est une histoire de cadre.
Ok. Comme ça. Bonjour, François Caillat, je m'appelle Édouard.
Je suis né dans un village du nord de la France où, jusqu'au début des années 80, beaucoup d'habitants étaient au chômage et tentaient de survivre avec les aides sociales.
Il est bizarre, ton fils, Monique. Pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi tu te comportes comme une fille ?
Je voulais toujours être quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était terrible d'être moi.
J'étais créé par l'insulte. Pédé, pédale, enculé.
On savait bien qu'il en avait du pédé, celui-là.
La fuite était la seule possibilité qui s'offrait à moi.
L'arrivée à Amiens et l'arrivée au lycée, c'était le moment de la honte sociale. Personne connaissait ma famille, même mes amis les plus proches.
Les autres enfants jouent et toi, tu caches ton secret.
Quand je disais je m'appelle Eddie Balgueul, tout le monde pouvait à peu près dire de quel milieu je venais.
Je voulais pas abandonner. Je voulais que tu me regardes. Regarde, papa.
Contre toutes les fois où vous m'aviez fait comprendre, mon père et toi, que je n'étais pas le fils que vous auriez voulu avoir.
Eddie Balgueul, c'était pas moi, c'était ce que j'ai jamais réussi à être.
Pour moi, Édouard Louis, c'était vraiment le nom de la liberté, le nom de la réinvention.
À chaque fois qu'on dit « je change », on donne la possibilité à d'autres personnes de dire « je veux changer ».
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !